faire la septième parole de Marc dans les deux heures que nous avons. Nous étions jusqu'ici avec l'évangile de Luc. Toutes les paroles qu'on a vues, elles étaient chez Saint-Luc, de Jésus entre avant 0 et 13 ans. Et maintenant, nous sommes au seuil de la vie publique de Jésus. Je dis au seuil puisque même s'il y a déjà eu à la fin du chapitre 1er l'appel des premiers disciples, la première journée de Jésus, nous sommes au premier signe de Jésus, la première manifestation. Chez Saint Jean, les miracles sont appelés signes parce que c'est pas tant des actes de puissance, comme c'est marqué dans les, comme est utilisé le terme miracle dans les synoptiques, mais c'est très attaché sur la signification, sur le signe du royaume que sont ces actes. Et le premier, ça va être Cana. J'étais pas à la bonne page. Ça va être Cana. Voilà. Je ne sais pas s'il y a besoin que je relise le texte, peut-être.
Vous l'avez dit hier.
Ah, vous l'avez dit hier. Ah oui. Donc, vous l'avez tous bien présent à la tête. Au début du texte, Marie est vraiment au premier plan. C'est elle que l'on nous dit être invitée avec les disciples. Être à la noce. Et on nous dit, par rapport à Marie, Jésus y est aussi invité avec ses disciples. Quel était le lien de Marie avec les époux? Bon, on ne sait pas. Mais si elle est invitée, c'est qu'il y a un lien. Elle participe donc à cette célébration de l'amour. Elle est heureuse à cette célébration des joies humaines, du bonheur, de l'amour. Et ils n'ont pas de vin. C'est sa parole, cette sixième parole, dans laquelle on va contempler, j'ai oublié de vous le dire, la flamme d'amour qui compatit, la compassion de Marie et le don de science. Marie, elle est la première qui perçoit ce manque, cette détresse. Le vin, dans la Bible, c'est le symbole de l'amour. On voit dans le Cantique des Cantiques. Et c'est aussi le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est aussi cette joie, cette surabondance de la vie. Et ce manque qui domine ici, qui est en train d'arriver, il risque d'obscurcir la vie. Imaginez-vous une noce où il manque du vin. Ça va être une noce ratée. Et en plus, si on est un tout petit peu superstitieux, c'est une noce, ça va marquer notre... On dit, quand on parlera de notre mariage, c'est là où il manquait du vin. Et c'est plus important que ce qu'on croit peut-être nous, surtout quand ça ne nous est pas arrivé. Mais je me souviens, par exemple, la difficulté quand le poids des traditions sociales sont difficiles. Je me souviens, par exemple, au Sénégal, dans notre quartier, quand quelqu'un meurt, tout le monde vient. Tout le monde vient. Toute la famille, tous les amis... viennent vous visiter et puis restent là plusieurs jours. Et je peux vous dire que les familles pauvres, c'est hyper difficile parce qu'il faut nourrir tout le monde. Et quand on ne peut pas nourrir, et je me souviens le casse-tête pour des gens qui étaient vraiment très pauvres et qui était impossible de nourrir tout le monde, c'est vraiment la honte, c'est vraiment la déchéance dans le groupe dans le groupe familial. C'est vraiment très très difficile à porter. Marie, elle est là et elle veut la joie. Et elle est première à repérer la pauvreté du cœur de l'homme, la pauvreté matérielle, bien sûr, mais surtout cette, la pauvreté spirituelle, le manque d'amour dont le vin ici est, est le symbole. Elle regarde ses enfants, elle dit, il s'est attiédi, il a perdu la ferveur. Et c'est intéressant parce qu'elle s'en rend compte avant tout le monde, elle s'en rend compte avant le maître de cérémonie, l'articlinium, comme on disait dans les vieilles Bibles, hein, avant les époux. C'est cet amour qui, de Marie qui est délicatesse, qui est attention, qui est perspicacité. Ça, c'est des qualités de l'amour de Marie. Elle sait discerner dans nos vies, nos pauvretés, nos manques, nos misères. Ces pauvretés, ces manques, ces misères dont nous n'avons pas encore vraiment conscience. Et notre manque de lucidité sur nous est souvent une des plus grandes marques, un des plus grands manques de vin. Souvent, on a de la lucidité sur, sur les autres, sur, sur ce qui manque aux autres, pour nous satisfaire, entre guillemets. Mais sur nous, c'est plus difficile. Et Marie, elle les connaît mieux que nous. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de la prendre chez nous, hein, parce qu'elle va nous permettre de rentrer dans, dans cet amour qui sait être présent. Dans notre prière, quand on l'invite, eh bien, elle nous aide à voir notre indigence et elle présente à Jésus nos manques. C'est-à-dire, c'est intéressant avec Marie parce que si elle voit les manques, c'est pas pour nous faire honte, c'est pas pour nous mettre dans l'embarras, c'est pas, elle ne va pas crier, elle va en prendre public par les remarques, elle va pas en faire des commérages. Mais elle se tourne directement vers Jésus. Et elle fait sa demande dans la plus grande discrétion. Là est la compassion. Cette flamme d'amour qui est compatie. Marie n'est pas là pour accuser ou condamner, mais pour nous présenter, pour présenter les époux ici à Jésus. Vous voyez la différence, comment nous, souvent, on est très vite, on remarque les manques, mais on insiste sur les manques, on montre bien. Hein. Alors, on a l'impression que c'est notre survie de manifester à l'autre, aux autres, leurs manques. Hein. Alors qu'ici, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Cette compassion ici, elle est aussi grande à Cana, parce que si, évidemment, quand on regarde Marie au pied de la croix, Marie est associée à la compassion, bien sûr, mais on peut penser qu'elle est un peu naturelle. Ici, elle est dans une compassion qu'on pourrait penser qu'elle n'est pas indispensable. Hein? Elles ne vont pas mourir de manque de vin. Hein? Et puis, ils ont déjà tellement bien bu que ce n'est pas la peine d'insister. Ils risquent d'avoir des accidents en rentrant. Hein? Il aurait pu dire tant mieux, comme ça il n'y aura pas trop de débordements après la fête. Hein. Il risquerait de s'enivrer davantage. Marie, non, elle est dans cette joie simple et elle veut que l'amour surabonde dans notre cœur. Et de l'amour dans notre cœur, il n'y en a jamais assez. Le vrai amour. Vous voyez, Marie n'intervient pas que quand nous souffrons, que quand nous portons notre croix, mais aussi dans la joie des noces, pour qu'elle surabonde. Vous voyez, ça nous oblige à corriger souvent les rapports. On prie quand il y a des difficultés, on prie quand ceci, etc. Non, Marie, ça va être dans sa délicatesse aussi dans le quotidien qui sait voir, qui sait maintenir que, la ferveur. Et Marie, elle rentre dans le détail de notre vie. C'est intéressant avec le Père Lamy, hein, fondateur de notre congrégation, toute la vie, tout le rapport du Père Lamy avec Marie, même si c'est très existentiel, très, très fort, parce que le drame du Père Lamy, c'est est-ce que je peux me présenter devant Dieu, hein, il a une telle conscience de sa pauvreté, de son incapacité, etc. Mais en même temps, Marie, quand elle y apparaît, c'est toujours pour indiquer dans le quotidien, pour l'aider à faire. Il s'y prend mal pour refaire l'électricité, il s'y prend mal pour faire les bougies, etc. Il veut faire le ménage de ses carreaux de l'église. Il entend, c'est pas la peine de les faire parce que c'est pas la peine. Hein, et puis ça explose 3 jours après, etc. Marie va nous apprendre la charité fraternelle. Elle va nous apprendre la délicatesse que nécessite la charité fraternelle. Vous voyez, sa vie contemplative, loin de la rendre indifférente, ça ne l'a fait qu'être encore plus proche, délicate, attentive. Ça, c'est un grand test de l'authenticité de notre amour. Et Marie, elle est intéressante parce qu'elle a cette même, la même délicatesse qu'elle a envers Jésus, hein, tout son amour maternel, eh bien, elle a cette même délicatesse par rapport aux époux, par rapport à chacun, par rapport à chacun d'entre nous. Et pour nous, c'est intéressant, on a ici cette dimension qui revient toujours dans Saint Jean, hein, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce n'est pas différent. Ça va ensemble, ça ne peut pas être séparé. Alors une autre chose aussi qui est, enfin, dans la continuité quand même, mais qui est importante, c'est que Marie, elle ne va pas dire à Jésus ce qu'il doit faire, elle ne réclame pas. Hein, et dans la compassion, dans une prière de compassion, c'est aussi très important. Elle expose simplement dans la discrétion, dans l'humilité, la pauvreté. À aucun moment, elle va être dans le reproche pour les époux. Hein, elle ne s'intéresse pas à la cause, mais seulement à y remédier. Elle est présente. On ne va pas revenir sur le passé. On ne va pas dire... Ah ben oui, mais si tu avais fait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça a été une négligence, ou alors c'est un manque par rapport à la pauvreté, ou un manque par rapport à la prévoyance, ou qui est-ce qui n'a pas fait son travail, etc. Vous voyez, toute cette recherche. Elle ne s'embarrasse pas de tout ça. Encore une fois, je vous dis, elle ne cherche à causer ni gêne, ni honte, ni embarras. Mais elle va faire face, maintenant. Et elle fait le bien, j'allais dire, sans le faire sentir. Hein, c'est Saint Vincent de Paul qui a ce sens aussi quand il embauche les dames pour qui deviendront les filles de la charité. Hein, il leur dit, allez, faites pas sentir que vous donnez, faites pas sentir, mais donnez pratiquement en vous excusant de donner. Faites pas sentir, ben c'est moi qui donne, donc voilà. Nous, on a vite fait de montrer qu'on a fait du bien, on fait sentir à l'autre un peu qu'il nous est redevable. Hein. Elle ne cherche pas non plus une solution humaine, elle ne dit pas qu'il faudra aller chez les marchands, etc. Hein. Mais elle confie à Jésus. Et pour nous, c'est important aussi de... Très souvent, j'allais dire, nous méconnaissons la puissance de la prière et de la prière d'intercession. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est efficace. Elle sait que Jésus est aux affaires du Père, c'était la dernière parole, et donc elle a confiance. Il saura, lui, quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle ne sait pas. Hein. Est-ce qu'il va faire un miracle? Est-ce qu'il va faire un discours? Est-ce qu'il va trouver une autre solution? Ça, c'est son problème. Et voyez ici, on voit se dessiner à Cana, on voit se dessiner finalement cet amour de compassion de Marie qui sait être là, qui ne va pas se mettre à la place, qui ne va pas... Je crois que c'est très important dans l'amour de compassion, et on le retrouvera à l'amour, à la compassion de la croix, mais ici c'était intéressant de le contempler finalement dans le contempler aussi dans ce quotidien, dans cet aspect gratuit, hein, au début de Cana, cette compassion qui n'est pas un amour qui se met à la place, qui n'est pas un amour qui dit bon bah tu sais pas faire, je vais faire les choses à ta place, hein, mais qui essaie d'être à côté pour accompagner, avec un cœur dans la prière, un cœur qui sait voir le manque, qui sait rejoindre finalement dans le fond, qui sait rejoindre dans la détresse. Hein, mais qui fait confiance, qui fait confiance à Jésus. J'allais dire qui fait confiance aussi dans la compassion, quand vous accompagnez quelqu'un qui est dans une profonde détresse, et on le voit aussi bon, en contemplant Jésus à la croix, mais à Jésus à la croix, elle sait que Jésus, il accomplit quelque chose, il est aux affaires du Père. Il se passe quelque chose. Donc, elle ne va pas faire intervenir la manière dont elle, il faudrait qu'elle pense que Jésus doit faire sa mission. Non, mais elle va lui donner la main, elle va faire confiance. Hein? Et, enfin, donner la main au sens de donner la main, mais au sens du jeu de cartes. Hein? Elle lui donne la main. Et c'est vraiment ce mystère de la compassion dans laquelle Marie nous invite, hein, pour que, oui, toute cette délicatesse de l'amour. Et on a ici, si vous voulez, aussi le don de science qui va enseigner à discerner le bien et le mal, à pleurer sur le mal, à y remédier. Le don de science, il fait que l'Esprit Saint qui fait connaître le cœur de l'homme, qui fait pleurer les péchés aussi, qui fait voir le péché, qui fait voir la noirceur, qui fait voir la tristesse, mais qui nous fait courir à Jésus et mendier son aide. Et le don de science, il est plus par... Dans l'intelligence, il était plus par rapport au sens des choses divines, à la conduite, comment Dieu nous conduit, les choses de Dieu. Le don de science, c'est plus par rapport à notre humanité. Les chemins du cœur de l'homme. Le don d'intelligence, c'est plus les chemins de Dieu, ben aussi pour nous, puisque c'est toujours en rapport avec nous, mais percevoir le sens d'une épreuve, etc. Ici, c'est plus d'apprendre à savoir rejoindre le cœur. Ce qui est très fort avec Marie, c'est que finalement, même si tout ce qu'elle fait, ça passe dans des choses très simples, des choses, une remarque toute simple, un regard, un geste, elle rejoint toujours le cœur profond. Elle fait toujours la place au cœur profond, à considérer l'autre comme une personne. Dans la compassion, c'est ça qui est important. Nous, on a vite fait, tellement vite fait dans des tas de situations, hein, quand quelqu'un est handicapé, quand quelqu'un est en difficulté, on fait tellement vite les choses à sa place, hein, et qu'on oublie qu'il a cette autonomie, qu'il est appelé à cette autonomie, hein, et d'avoir cette délicatesse de permettre... à l'autre de prendre toute sa place. Alors vous avez un peu souvent dans la compassion, il y a ce dicton, il vaut mieux donner aux autres une canne à pêche que du poisson. Hein, de... bon, c'est un peu de l'idéologie, cette histoire-là, mais il y a quelque chose de vrai, mais qui est utilisé avec beaucoup de délicatesse. Parce que des fois, c'est une manière pour se débarrasser de l'aide qu'on pourrait donner, hein, puis en disant, voilà, ou c'est donner des moyens, demander que l'autre prenne en main des moyens trop forts, mais cette, la compassion, elle va justement permettre de, d'accompagner, mais sans jamais prendre la place, mais d'être là présent. Parce que ce qui nous permet de grandir aussi, c'est de savoir cette présence. Hein. Je disais par rapport tout à l'heure, c'était au Sénégal, moi j'étais très frappé de ça. Quand quelqu'un est dans le deuil, on vient. Hein. Nous, maintenant, aujourd'hui, en France, quand quelqu'un est dans le deuil, on dit, ben non, faut peut-être pas que j'y aille, faut peut-être pas embêter les gens, je vais embêter les gens, on se demande qu'est-ce qu'on va dire, parce que de toute façon, on sait que, au moins, on sait qu'on va pas forcément dire quelque chose d'intelligent. Hein, mais on n'y va pas pour dire, hein, c'est comme dans la Bible. Dans la Bible, c'est la même chose. Quand quelqu'un est en deuil, eh bien, on y va, on est là, on s'assied, et surtout, on n'ouvre pas la bouche. Avant que la personne dans le deuil, si elle nous parle, alors on peut y aller. Vous avez ça dans le livre de Job au début. Hein, ils sont très bien éduqués, les trois amis de Job. Il est dans le deuil, ils viennent, et Job n'ouvre pas la bouche pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ils n'ouvriront pas la bouche. Et quand Job se met à parler, alors ils répondent, alors ils peuvent parler. Hein. Ce qui n'est pas une garantie pour eux que leur parole soit la bonne parole, mais enfin bon. Mais c'est ce sens, la compassion, c'est d'abord cette présence, ne pas se dérober. Hein. Vous avez dans les proverbes, ne te dérobe pas à ta propre chair. Parlant du prochain. Ne te dérobe pas à ta propre chair. C'est cette capacité d'être là, et vraiment d'être là, mais sans prendre la place d'eux. C'est accepter d'être impuissant. Et là, je peux vous dire que il n'y a pas de relation plus forte que quand on peut être dans cette attitude. Je me souviens encore au Sénégal, une maman qui avait 2 enfants, une petite Victoria de 7 ans et un petit Augustin d'à peine 1 an. Hein, et le petit Augustin est malade et la mère enfin se décide à aller à l'hôpital et elle me confie l'aîné. Et puis elle va à l'hôpital, mais bon, il était trop tard, le petit, il avait la rougeole et il est mort de sa rougeole. Et elle revient à la maison, et les volontaires, les amis des enfants qui étaient là, disent, sont allés avec elle, et sont allés passer la journée avec elle pour faire toutes les démarches qu'il y a à faire, etc. C'était des récentes arrivées dans le pays, elle n'avait aucun sens de ce qu'il fallait faire pour... de toutes les démarches qu'il fallait faire, mais elles l'ont fait avec elle, elles l'ont aidé à se débrouiller, elles ont été présentes, etc. Bon. 8 jours après, elle retourne dans la maison de la maman de Victoria Augustin, et il y a tout le monde, toute la famille, etc. Et la maman se tourne vers tout le monde et regardez mes amis ce qu'elles ont fait pour moi. Elles n'avaient rien fait, elles avaient juste crapahuté toute la journée avec. Hein, mais regardez ce qu'elles ont fait pour moi. Et il y a un lien qui s'est fait extraordinaire. C'est aussi cette autre histoire, un peu d'une histoire un peu similaire, mais qui permet peut-être d'aller un petit peu plus loin aussi. J'ai vécu au Brésil. Il y avait une famille. Le petit Maurizio, c'est un des premiers enfants qui m'a accueilli dans le quartier. Et il appartenait à une famille avec une maman, des grandes sœurs, mais qui vivait dans une pauvreté très grande. Pour vous dire, la maison, c'était même pas leur mur, hein, c'était les murs des maisons d'à côté, hein, qui leur servaient de mur. Et la maman, il lui arrivait de temps en temps de manger les briques de la mur du voisin pour se nourrir, hein, parce qu'il n'y avait rien à manger. Notre situation avec cette famille était assez compliquée parce qu'elle avait. Il y a une dame qui était venue vivre avec ses deux enfants dans la communauté chez nous, qui était en grande difficulté et qui était devenue à vie avec Vanny, Léonard Vanny, qui est la personne dont je parle. Mais visiblement, elle enseignait à Donia Nissi, qui est celle qui vivait chez nous, à tout faire pour nous exploiter le mieux possible. Donc il y avait une certaine défiance qui était un peu là. Et un jour arrive... le soir, 8h30, et il y a les grandes filles qui viennent nous chercher en disant « Venez, venez, venez à la maison, il y a un malheur. » Et effectivement, il y a eu un malheur parce que, chose qui ne se fait pas, Donna Vanny, qui n'avait déjà pas une bonne réputation dans le quartier, elle envoyait ses enfants mendier dans le centre-ville, mais sans y aller elle-même. Donc, je veux dire, il n'y a pas, dans notre quartier, il n'y avait pas plus grande déchéance que d'envoyer ses enfants mendier sans y aller soi-même. Quoi, hein. Et en rentrant, le petit Maurizio s'est disputé avec ses grandes sœurs, chose qui est normale, hein, et qui, du coup, est descendu du bus en s'échappant et est passé devant le bus et, évidemment, a été renversé par la voiture qui doublait le bus qui était arrêté. On n'entend plus, ben oui, un tracteur, mais je parle plus fort. Non, c'est moi, j'ai baissé parce que quand je parle de cette histoire, je parle un peu sous le ton de la confidence. Donc, on y va. Alors, c'est le grand... Dans le quartier au Brésil, c'était les grandes manifestations de douleur, etc. Donc, quand on arrive, la grande sœur, l'aînée des filles, rentre de l'hôpital en disant que Maurizio était mort. Donc, on passe un temps, il y a des gens des voisins, et puis la soirée passant, les gens s'en vont. Et puis, nous, on est restés. Et puis, la maman se lève et dit « Je vais à l'hôpital pour voir mon fils. » Et on dit « Ben, nous, on vient avec vous. » On y va. Alors, ça a été une épopée, je ne peux pas vous dire, parce qu'on a pris le dernier bus, il fallait prendre 3 bus, le dernier bus, hein, on a réussi à avoir une correspondance avec le dernier bus de l'autre ligne, et le dernier, on a fini à pied parce qu'il n'y avait plus de bus. Et on arrive à l'hôpital pour se dire, ben non, il n'est pas là parce qu'il est mort sur la voie publique, donc il a été envoyé à la banque parce qu'il faut une autopsie demain matin. Donc on rentre dans notre quartier, il y a quand même un bus qui passe toutes les heures et demie, donc on arrive à retourner notre quartier vers 5h du matin, et puis à 6h30 on repart pour la morgue. Alors là, bon, on a attendu très longtemps, ils nous ont montré l'enfant que vers 10h30 le matin. Alors là, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué pour toujours, je pense. C'est la maman découvrant le corps de son fils qui a été mis dans une sorte de grand hall, grand hangar, je ne sais pas, c'était vraiment sordide. L'enfant avait été une autopsie, mais vous savez, c'est des enfants des pauvres, alors il avait été recousu. Vraiment, c'était pas génial comme boulot. Mais de voir la maman dans un silence complet, reconnaître le corps de son fils avec ses mains, j'avais l'impression, vous savez, d'un grand pianiste avec un piano extraordinaire, quoi, historique, etc., avec une délicatesse. Je me suis dit à ce moment-là, oh mon Dieu, que je puisse me toucher l'Eucharistie avec autant de respect. Et les uns et les autres aussi, d'ailleurs. Bon, on a fait les démarches, on est allé pour l'enterrement qui avait lieu l'après-midi, on a aidé effectivement pour les démarches, Et puis on est arrivé au cimetière où avait notre lieu à 3h après-midi. En arrivant au cimetière, on achète une petite fleur, genre un petit bouquet stupide de genre de marguerite, quoi. Enfin, voilà. Et juste avant d'être enterré, bon, le cercueil est ouvert, juste à l'emplacement où il va être enterré. Il y avait un brouhaha parce que la famille autour, c'était un poème, donc ça criait dans tous les sens, etc. Et je me trouvais juste au centre, à côté de la maman et du cercueil. Et la maman a pris les fleurs, a commencé à les dépiauter pour faire une couronne à son fils. Une couronne de fleurs qu'elle a posée sur son front. Et l'internat, on est rentré à la maison. Voilà. Et je parle de cette histoire parce que le fait d'être à côté d'elle, on lui a permis de vivre. Elle l'aurait fait sans nous. Mais on lui a permis de vivre et d'aider, un peu d'aider, de faciliter au moins par la présence, par le fait d'accompagner ces moments-là. Mais je pense que le fait d'être là lui a permis aussi à cette femme qui était considérée comme vraiment une femme moins que rien dans le quartier, d'exprimer son amour dans la paix et d'une manière extraordinaire. Cette femme qu'on accusait de ne pas savoir aimer finalement, etc., elle a pu révéler vraiment un amour extraordinaire pour son enfant. Bien sûr qu'il peut-être manquait un peu de vin, manquait un peu d'efficacité dans le quotidien, sûrement, parce que noyé par la misère, mais en même temps, de faire émerger ce cœur. Et alors, je vous raconte ça parce que pour le lien que fait la compassion, c'est ensuite, il nous arrivait de temps en temps, on peut passer en fin d'après-midi, de passer par chez elle. Et quand on arrivait chez elle, j'avais juste une pièce, elle me recevait là, il y avait des gens qui passaient, donc il ne se passait rien du tout. Et puis une fois que tout le monde était parti, elle nous gardait, elle nous amenait dans la petite cour par derrière, enfin cour, un petit réduit qui n'était pas la maison mais qui était juste par derrière, et elle se mettait à parler et de parler de son cœur, des désirs de son cœur, d'oser envisager l'avenir, d'oser envisager ce qui lui tenait à cœur. Et c'était vraiment très impressionnant parce que on avait l'impression de partager avec elle un point, une profondeur, à une intimité, j'allais dire, qui était beaucoup plus grande que tous les hommes qui voulaient passer chez elle, dans le sens du cœur, de profondeur, voyez. Parce qu'il y avait comme quelque chose. On a vécu ensemble, on a été là, on lui a permis, c'est moi qui le formule, je ne sais pas si c'est le formule que ça, mais on lui a permis d'exprimer quelque chose, ben, qui était là, qui restait là. Et la compassion, finalement, c'est de permettre aussi à chacun de pouvoir exprimer, de pouvoir ce qu'il est. Quand on pense que c'est plus possible d'exprimer quelque chose, de réussir quelque chose, d'être juste là pour permettre de... Mais si, il y a encore une voie, et ça, elle est donnée par la présence, par cet amour de compassion, qui pour nous passe aussi, j'allais dire comme Marie, par la prière, par l'intercession, par prier pour. Vous voyez ? Et ça, c'est ce mystère de la compassion qui est d'une force incroyable, mais qui demande... Comme on voit tous les actes de Jésus, c'est dans son apostolat, c'est la compassion, si vous voulez, constamment, avec la Samaritaine, avec les lépreux, les malades, etc. Il a ce regard qui va permettre de faire jaillir la vie chez l'autre, qui va permettre de faire jaillir, parce qu'il a un regard qui compatit, qui sait rejoindre, qui sait se situer. C'est pas une compassion qui enferme, c'est pas une compassion qui enferme dans le malheur, etc. Mais qui sait croire encore dans la possibilité de l'autre, qui sait qu'il peut y avoir, on sait pas comment, mais qu'il y a une source de vie et d'aider à la faire jaillir simplement par la présence. C'est pas nous qui allons faire. Moi j'aime bien dire les miracles de Jésus en étant un petit peu provocateur. Je dis, Jésus n'a jamais guéri personne. Dans le sens que les miracles de Jésus, c'est pas abracadabra, cadabra, cadabra, je suis puissant, et toi, lève-toi. C'est pas ça les miracles de Jésus. Il fait sauter toutes les frontières pour rejoindre l'autre. Le lépreux, il va lui parler, il l'approche, il touche, etc. Il s'intéresse à lui. Il le traite avec respect, comme une personne, et non pas comme quelqu'un qui est réduit à son malheur. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors le petit répond « Que je vois pardi, je suis aveugle. » C'est moi l'aveugle ou c'est toi? Enfin non, c'est que j'exagère un peu. Et Jésus dit « Tu crois que je peux le faire ?» Il vient chercher la foi. Il vient chercher ce lien, il vient chercher. Et alors du coup, oui, qu'il soit fait selon ta parole, dit Jésus, qu'il en soit fait ainsi. Et c'est vraiment Jésus, c'est, vous voyez, alors Jésus, bien sûr, c'est Jésus qui guérit, mais la manière de le faire, elle est une manière de compassion. Elle est une manière, non pas de, c'est un acte de puissance, parce que c'est la puissance de Dieu, mais qui vient faire renaître quelque chose chez nous. Il vient faire renaître quelque chose chez chacun de ceux qu'il rencontre. Et d'ailleurs, la vie chrétienne, c'est ça. Ce que les apôtres appellent le thème de l'évangélisation de Jésus, la prédication de Jésus, c'est « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». Chez saint Jean, c'est traduit par « Il faut naître de nouveau ». Il faut naître de nouveau. Et c'est vraiment ce... De pouvoir ce que les apôtres disent, l'objet de la prédication de Jésus dans les synoptiques, c'est dit le royaume des cieux est là, convertissez-vous. Chez saint Jean, c'est dans le discours avec Nicodème, c'est il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut. Et c'est vraiment aussi tout ce sens, c'est Jésus, la résurrection de Jésus, et notre baptême, c'est mourir au vieil homme pour renaître. Ça vient chercher, chercher chez l'autre ce qui est, j'allais dire, ce qui est encore vivant, ce qui peut renaître. Et ça, on ne peut pas le faire à la place de l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette place de Jésus. C'est pour ça que j'en parle ici aussi au niveau de la compassion, au niveau de Marie, parce que Marie, elle laisse la place à Jésus, elle laisse la place aussi, elle ne va pas faire les choses, je vous dis, elle ne va pas aller chez les marchands, ce n'est pas elle qui va faire. Mais c'est sa présence, c'est sa délicatesse, c'est sa manière de voir qui va permettre eh bien, ce signe. Et c'est vraiment un signe, alors on verra dans l'heure suivante avec ce qu'elle dira et avec le dénouement un peu avec Jésus, on verra la force de ce signe, hein, mais... Elle va vraiment permettre que ce signe se fasse. Elle va permettre que, et c'est vraiment un signe du royaume, c'est un signe de l'accomplissement, c'est un signe de la messianité de Jésus. Et voilà un peu comment nous sommes appelés à être les uns par rapport aux autres. Vous voyez, nous, on est dans un dialogue, on voudrait que l'autre échange, qu'il fasse ceci, qu'il fasse les choses bien, en reprochant. Ici, c'est tout à fait autre chose, c'est de savoir rejoindre le cœur pour faire jaillir les sources de vie qui sont en attente, et que le Seigneur seul peut débloquer.